L'école en est dividende. Nous allons revenir évidemment sur le grand débat national sur l'école lancé par Luc Ferry. Que veulent les parents? Plus de discipline à l'école. Ils veulent aussi que leurs enfants apprennent à lire et compter tout simplement. C'est le résultat de cette grande consultation de l'automne dernier. Marc Lebris nous dit que pendant 20 ans, l'éducation nationale l'a empêché de faire son métier. C'est ce qu'il écrit. Avec les méthodes modernes, les enfants ne savent ni lire ni écrire. J'ai eu honte, puis j'ai corrigé le tir et j'applique maintenant les méthodes des maîtres plus anciens. C'est beaucoup plus efficace. Avec nous donc, Marc Lebris à 8h35, 8h13.
Oui,
par Marc Lebris qui est...
j'étais exprès.
Directeur d'école et on va parler de son livre « Vos enfants ne sauront pas lire ni compter » Marc Lebris, sous-titre « La faillite obstinée de l'école française ». On en parle dans une minute.
Jean-Jacques Bourdin.
Notre invité ce matin, Marc Lebris, instituteur, directeur d'école en Ille-et-Vilaine. Marc Lebris, bonjour.
Bonjour.
À quel endroit dirigez-vous cette école?
Médréac, c'est à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Rennes.
Vous publiez « Et vos enfants ne sauront pas lire ni compter, la faillite obstinée de l'école française » aux éditions Stock. Je vous lis. « Pendant 20 ans, l'éducation nationale m'a empêché de faire mon métier. » Avec les méthodes modernes, les enfants, souvent, ne savent ni lire ni écrire. J'ai eu honte, puis j'ai corrigé le tir, et j'applique maintenant les méthodes des maîtres plus anciens, c'est beaucoup plus efficace. Si vous regardez un chiffre, 15% des élèves entrant en 6e ne lisent pas bien.
15% est le chiffre, tout le monde est d'accord sur ce chiffre-là désormais, jusqu'au ministère, d'en bas jusqu'en haut, et si on le corrigeait, ça serait à la hausse.
Bien, vous avez vous aussi participé au débat sur l'école voulu par Luc Ferry. On connaît les résultats du rapport Tello depuis hier. Que veulent les parents? Ils veulent plus de discipline à l'école et ils veulent tout simplement que leurs enfants sachent lire et écrire en sortant de l'école primaire. Ce qui me paraît élémentaire, si je puis dire.
C'est légitime, si vous allez à l'hôpital parce que vous êtes malade, vous espérez qu'on vous guérira. On n'arrivera pas à guérir tout le monde, mais on va au moins vous soigner avec des méthodes qui fonctionnent. Et le jour où on se rend compte que les méthodes ne fonctionnent pas, on arrête, parce que c'est sérieux.
Alors on va entrer dans le détail, Marc Lebris. Si vous étiez ministre de l'Éducation nationale, quelle serait la première mesure que vous prendriez?
Là, tout de suite,
oui.
La réfection des programmes dans lesquels il n'y a plus rien. Dans lesquels il n'y a plus que parfait, il n'y a plus la règle de 3, il n'y a même plus la multiplication par un nombre décimal. Personne ne sait, il n'y a que les instituteurs. On ne multiplie plus par 1,2, ce qui, moi, me semble très important pour comprendre la proportionnalité, les fractions, les nombres décimaux en tant que tels.
Mais alors, que s'est-il passé? Quand a commencé cette faillite obstinée de l'école française?
Je crois que c'est un phénomène de 30 ans. C'est en 1970 que commencent à s'installer à l'intérieur de l'éducation nationale des théories qui avaient été préparées... par des intellectuels et des associations progressistes qui se regroupaient pour fabriquer des méthodes nouvelles. À la suite des lendemains qui chantent du début du siècle, on a pensé que...
Après 1968, quoi.
Du début du siècle jusqu'à 68. Et donc l'application est dans l'éducation nationale, qui est quand même une population relativement intellectuelle, se sont installées ces théories auxquelles j'ai cru et que j'ai appliquées avec passion, fougue et comme tout le monde. Mais qui malheureusement, il est temps de le dire, de l'avouer et de faire peut-être pas demi-tour mais de tourner à angle droit, ça ne marche pas.
Nous avons avec nous un enseignant militant qui croit à son métier, dont la vocation est d'apprendre et non d'éveiller les enfants, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, hein, Marc Lebris.
Non, ça n'est pas la même chose. Ouais. Ça n'est pas la même chose. Le mot éveil était inventé dans les années 70 pour représenter ce qu'on appelait avant science, histoire et géographie. Rien que dans le mot, il y a déjà une... C'est de la forfanterie. De quel droit puis-je me permettre, moi, d'éveiller un enfant? C'est pas... Ou d'éveiller qui que ce soit, qui dormait avant que j'arrive. Je peux lui apprendre Marignan 1515, je peux lui apprendre le subjonctif, je peux lui apprendre des deux capes, je peux lui apprendre à résoudre un problème, mais il est hors de question que j'aille jusqu'à l'éveiller. C'est-à-dire que j'aille jusqu'à l'éduquer. L'éducation, c'est pour les parents. Ce que les parents me demandent de faire, à moi... C'est l'instruction. Et que le gamin sache faire en sortant de l'école, lire, écrire et compter.
Il y a une journée d'action des enseignants aujourd'hui. Vous vous associez à cette journée?
Comme mon secteur est en vacances, à vrai dire, je suis venu vous voir.
Oui, vous êtes en Ille-et-Vilaine, je vous rappelle, oui.
Non, je n'ai pas suivi.
Pourtant, vous êtes un militant. Vous êtes un militant de gauche, Marc Le Bris. Vous êtes un homme. Oui, vous êtes un homme engagé.
Oui.
Vous défendez l'école publique. Vous êtes. Vous aimez cette école publique et vous avez. Vous dites même dans votre livre, j'ai honte parfois. J'ai eu honte parfois d'enseigner ce que j'ai enseigné à mes élèves.
A posteriori, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'ai faites en y croyant qui ne servaient à rien et qui étaient d'une inefficacité terrible. Comprenez bien que si on fait un projet où on va aller peindre le mur du préau, et c'est ce qui est quasiment obligatoire depuis la loi Jospin, ou si on va chanter des chansons aux petites dames de la maison de retraite d'à côté, c'est gentil, c'est joli, c'est sympa, ça passe bien dans les médias par exemple. Mais les gamins n'apprennent pas ni grammaire, ni orthographe, ni à compter dans ce cadre-là. Et moi je suis tout simplement là à essayer de, d'alerter les parents pour récupérer... Il y a une espèce de hiatus. Les parents et les enseignants ne s'entendent pas bien en général. Il y a une espèce de mur d'incompréhension entre nous. Les parents disent, mais enfin bon sang, apprenez-leur à lire. Dans le rapport Tello, malgré les questions qui étaient posées, qui étaient orientées tout à fait différemment de ce qui en est sorti, les parents veulent que leurs gamins sachent lire. Et ils nous disent, mais bon sang, apprenez-leur à lire, faites B.A.B.A. O et U. O. Et dans l'éducation nationale, on n'entend pas ça. On n'entend pas les parents qui viennent dire ça, et on fait avec des méthodes à nous. Très intellectualisées, très théorisées, que je crois complètement faux, c'est pas scientifique du tout, et qui ne marche pas. Et moi je viens maintenant, parce que, un petit peu trahir ma corporation, c'est là la difficulté de ma position, et je viens dire aux parents, allez voir vos instituts de CP, regardez comment ils apprennent à lire aux gamins, parce que c'est important, il n'y aura qu'un CP le petit, et c'est très important.
Marc Le Bris est avec nous ce matin. Vous voulez dialoguer avec lui, n'hésitez pas. 3216 rmcinfo.fr, 8h43. Le Bris, qui est directeur d'école, instituteur, et vos enfants ne sauront pas lire ni compter, de Marc Le Bris aux éditions Stock, la faillite obstinée de l'école française. Marc Le Bris, regardons les méthodes d'apprentissage de la lecture.
Oui.
Oui. Comment devrait-on apprendre la lecture à nos tout-petits aujourd'hui?
Tout simplement en leur disant, en leur faisant apprendre que B et A mis ensemble font bas ou que O et U mis ensemble font ou. Et il faut leur apprendre ça avec l'autorité qui est la nôtre et non pas le leur laisser deviner ou le leur faire deviner.
Parce que qu'est-ce qu'on leur apprend? Moi, je suis plus tellement au courant, maintenant mes enfants sont plus grands. Qu'est-ce qu'on leur apprend aujourd'hui?
Actuellement, on les met devant un texte complexe duquel ils doivent tirer eux-mêmes par raisonnement autonome que O et U font ou.
Ah bon.
Je n'invente rien, mon propos est court, mais tout à fait exact, c'est la méthode générale, généralisée, celle qui est à mon avis la cause de l'illettrisme.
Mais ça leur permet peut-être de prendre un peu plus d'initiative, d'être éveillés.
Tout à fait.
Éveillés.
On est éveillé quand on sait que O et U font OU et qu'on reconnaît le mot tambour, parce qu'on sait que O et U font OU. Et à ce moment-là, du tambour, on pourra en jouer, vous en faites pas. La créativité ne vient qu'avec les éléments qu'on connaît. Le Zidane, hier, a marqué un but la première mi-temps. Il s'y a entraîné toute sa vie.
Non, il n'a pas marqué.
Non, c'est
Raoul
qui a marqué.
Il n'a pas été très bon hier soir, Zidane. Pas bon.
Non, il s'y est entraîné toute sa vie, pardon.
Oui.
J'étais
c'est
en voiture à cette heure-là.
C'est pas grave, Marc Le
Bris. Il s'y est entraîné toute sa vie.
Oui.
Il a fait ses gammes avec un ballon de football.
Oui.
Bon, et bien alors. Alors maintenant, lui, pardon,
il
est créatif, lui. Et il dispose de toute la technique de sa discipline.
Bien sûr. Rappelons à nos auditeurs qui ne sauraient pas, les instituteurs sont formés dans des IUFM. Hein?
Oui, actuellement.
Institut universitaire de formation des maîtres.
Depuis la loi de 89, dite Jospin, en remplacement des écoles normales.
Je regarde ce que vous citez dans votre livre, ces petites phrases. Une rédactrice des nouveaux programmes dit aux futurs enseignants, il faut mettre en place, en classe, un débat indépendant des préjugés et des idéologies en organisant le conflit socio-cognitif. Alors moi, évidemment, ça paraît...
Oui.
Mais pourquoi cette folie?
Parce qu'ils croient avoir découvert une science qui permettrait de tout enseigner. Le conflit socio-cognitif est le deuxième gros secteur de ce qu'on appelle le constructivisme, c'est-à-dire que les enfants construisent leur savoir tout seuls. Le conflit socio-cognitif, je peux vous raconter ce que c'est. C'est quand les gamins ont eu un problème, qu'ils étaient à 4 ou 5 à essayer de résoudre une difficulté quelconque, construisaient une boîte de mouchoirs avec ce carton et ses ciseaux, et qu'ils découpent le trou sur la mauvaise face. Il y en a un qui dit, mais non, c'est pas cette face-là, ça c'est l'autre, c'est cette face-là. Ils se disputent. Et si on arrive à empêcher qu'ils se donnent des coups de poing dans le nez, alors c'est que celui qui a gagné a prouvé mathématiquement la réalité, le réalisme de sa réponse. Et ce faisant, il aurait ainsi construit son savoir. C'est simplement une vue de l'esprit, les enfants
J'entends déjà certains dire, mais il est passéiste ce Marc Lebris. C'est un homme d'autrefois, nous avons évolué maintenant.
Alors, pour ce qui est de moi et de mes collègues, je ne crois pas être passéiste du tout. C'est une accusation qu'on me redonne régulièrement.
Bah, j'imagine.
Je pense, moi, que le passéiste, c'est celui qui n'arrive pas à apprendre à lire à ses élèves. Oui, nous, on y arrive.
Okay, oui.
D'autre part, s'il s'agit d'avoir des ordinateurs dans sa classe pour montrer qu'on est moderne, j'en ai depuis longtemps et j'étais dans les premiers à en avoir. C'est pas du tout la question.
Est-ce que vous obtenez des résultats dans votre école?
Oui.
Est-ce qu'on sait lire quand on sort de votre école?
Oui.
Oui?
Ah oui. Tout le monde sait lire en sortant de ma classe.
Vraiment?
En sortant de notre CP, tout le monde sait lire avant Pâques.
Avant Pâques?
Ah oui.
Tout le monde sait lire.
Oui.
Et ce n'est pas vrai dans de nombreuses classes et dans de nombreuses écoles. Mais qu'avez-vous envie de dire à vos collègues enseignants?
Alors, à mes collègues, j'ai quelquefois des difficultés. Alors, il y a ceux qui...
Mais oui, parce que vous êtes mal accueillis, j'imagine.
Quelquefois. Quelquefois très bien. Parce qu'il y a les gens qui, comme moi, continuent à maintenir cette espèce d'ambition, qui me disent « parle, parle, explique, explique ». Et puis les autres qui me disent « mais dis donc, tu trahis ». Et alors, il y a une telle emprise de la formation initiale et de la formation théorique que la plupart des jeunes collègues qui arrivent sont... comme des moines qui entraient en religion, quoi. Il leur faut 2 ans, 3 ans, 4 ans, plus, quelquefois jamais, pour arriver à des techniques qui fonctionnent, pour arriver à regarder ce qu'on fait.
Marc Lebris, je regardais le rapport Tello. En fait, ce que demandent les parents, c'est simple, hein, que leurs enfants, je le disais tout à l'heure, sachent lire et écrire, et deuxièmement, qu'il y ait un peu plus de discipline dans les écoles. Est-ce qu'on manque de discipline dans les établissements scolaires, dans les écoles notamment actuellement? Est-ce qu'il faut valoriser la discipline, les punitions?
Oui, c'est un mot qui vient du passé et que je n'ose pas trop reprendre, mais moi je punis pas.
Oui.
Très peu. Mais je suis exigeant.
Oui.
Je suis exigeant et j'ai des ambitions. Je ne sais pas si mes collègues, comment fonctionnent mes collègues, mais il est très important qu'une classe soit au travail, quels que soient les moyens. Et il y a des éléments de contrainte dans le travail que je fais avec mes élèves, évidemment.
On va prendre Corinne, l'une de vos collègues. Bonjour Corinne.
Oui, bonjour.
Vous êtes institutrice dans la Drôme.
Voilà, tout à fait.
Allez-y, vous avez une question, une remarque
à
faire.
Déjà, je voulais dire merci à Marc Lebris de mettre un coup de pied comme ça dans l'enseignement, ça fait du bien. Et je voulais vous demander, donc au vu de l'échec scolaire, dû entre autres avec cette méthode globale, pensez-vous qu'il faille, tel qu'on nous le demande en enseignement en ce moment, instruire les enfants de plus en plus tôt, c'est-à-dire commencer la prélecture en grande section, la numération en petite section? Est-ce qu'il ne va pas y avoir saturation de la part des enfants ou dégoût des apprentissages? Est-ce vraiment la solution pour faire de nos enfants de bons élèves?
Marc Lebris.
Oui, vous avez raison, il y a là un gros risque. Mais les programmes sont dans un tel état de vacuité, de vide et de stupidité qu'il faut quand même se mettre au boulot plutôt que ce qu'on dit dans les programmes.
Mais qu'est-ce que vous trouvez de stupide dans les programmes?
Qu'on les vide par le bas. Pour que les techniques, par exemple, pour que le conflit socio-cognitif que vous avez cité avec plaisir tout à l'heure fonctionne, il faut que le sujet qu'on propose aux gamins soit d'une ambition extrêmement réduite, c'est-à-dire qu'on peut privilégier la méthode par rapport à l'objectif de connaissance. Ce qui fait que les gamins sortent de l'école désormais sans savoir manipuler une règle de 3, et que les patrons qui me côtoient me disent « mais dis donc, qu'est-ce que tu fous dans ton école ?» Les jeunes apprentis ne savent plus calculer quand on a un courant électrique pourtant et qu'il faut le calculer pourtant, quand on a une quantité pour 5 personnes et qu'on l'avait pour 8, ils ne savent pas le faire. Donc voilà.
Et l'instruction des enfants plus tôt?
Alors, la maternelle est une classe fondamentale à partir du moment où on prépare ce qui va se passer après. C'est-à-dire, moi je crois beaucoup au graphisme et au début de l'écriture et au début des associations de lettres sur une méthode syllabique, ça fonctionne. Ceci dit, ce qui est vrai dans les découvertes sur l'enfant qu'on a faites depuis des années, c'est que à chaque gamin, son évolution, plus ou moins. Il n'empêche que, si on commence à travailler en maternelle, ga, go, gu, ba, bo, bu, ça fonctionne, c'est utile, et il est très bon, quand on est tout petit, de savoir faire 11 plus 2, 10 plus 2, pardon.
Mais ça paraît évident. Merci Corinne.
Je vous remercie.
Bonne journée, au revoir Corinne.
Bonne journée, à vous, au revoir.
Au revoir. Marc.
Oui.
Vous êtes chef d'entreprise à Paris, Marc.
C'est exact.
Allez, notre invité est avec vous.
Moi, je suis beaucoup plus positif que votre invité.
Oui.
Je n'arrive pas à comprendre déjà pourquoi on dit que la mitigation par les chiffres à virgule n'existe plus. C'est pas vrai. enfin, ne sais plus, c'est pas vrai. Moi, j'ai des enfants, j'ai 7 enfants. J'ai tous joué l'affaire, tous, sans exception. Donc, je ne comprends pas pourquoi on dit que ça existe le programme. Moi, je bien au contraire, je pense que les programmes actuellement vont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. On a l'un des meilleurs bacs dans le monde. On apprend et on réapprend pendant des années la même chose aux enfants. C'est beaucoup de perte de temps. Il y a beaucoup de choses que les gens, que les enfants n'apprennent pas, qu'ils devraient apprendre. Enfin, pour certains, la musique, pour d'autres...
Vous savez quel est le problème, puisque vous parliez, Marc, du bac? Moi, je trouve qu'on demande aux enfants de savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils vont faire dès la troisième. Non, mais ça, c'est invraisemblable. Oui. Hein, c'est pas vrai, ça?
Mais je suis d'accord avec vous, bien sûr.
C'est invraisemblable. Il n'y a qu'en France où ça existe.
Ce sont des
ailleurs, on passe son bac et ensuite, on se... Hein?
J'étais avec une Américaine il y a quelques jours qui nous parlait de ça, évidemment. Évidemment. On demande aux gamins en troisième de se construire leur projet personnel de carrière, les pauvres chéris. Ils n'en ont aucune idée.
Oui.
C'est encore des gamins.
Mais oui.
Bon.
Bien, vous répondez à Marc. Marc
sur, sur les programmes. Alors,
la multiplication,
la multiplication par un nombre décimal, oui, mais elle n'est plus au programme de l'école primaire. Et par exemple, l'algorithme complet de la division n'est absolument plus étudié. Les gamins sortent de l'école primaire sans savoir faire une division. À ceci près, comme vous le dites, c'est que sur vos 7 enfants, vous avez pu constater que certains l'ont fait. Pourquoi? Parce que les enseignants sont comme les infirmières, ils ne peuvent pas ne pas faire leur travail, et que donc, ils font malgré tout, malgré le corps des inspecteurs qui les pourchassent quelquefois, ils font le boulot qui leur semble nécessaire. Donc, beaucoup de vos enfants ont appris à lire avec béaba, beaucoup de vos enfants ont fait des multiplications par 1,2 et des divisions complètes.
Oui. Merci Marc.
De rien.
Bonne journée, au revoir. Est-ce qu'on redouble toujours?
Non.
Le Brice.
Non. Le redoublement est pourchassé depuis la loi Jospin.
Mais alors, mais pourquoi?
Ça coûte cher, d'après eux. C'est faux. Écoutez, c'est simple. Si on va à l'école jusqu'à 16 ans,
oui,
de toute façon, que vous ayez redoublé ou pas, vous irez à l'école jusqu'à 16 ans. Si on vous n'a pas, si on ne vous a pas fait redoubler le CP, oui, vous allez aller après, quand vous serez en grosse difficulté scolaire parce que vous ne savez pas lire, dans des classes qui coûtent plus cher parce qu'il y aura moins d'élèves, parce qu'il y aura ceci et cela. C'est une folie. Et l'autre truc, c'est de dire que le redoublement traumatise les gamins. C'est pas vrai.
Oui. Marc Lebrisse, il y a beaucoup d'appels.
Oui.
Vous pouvez rester jusqu'à 9h15.
Oui.
Encore quelques minutes pour répondre à nos auditeurs. Vous savez que c'est la règle ici. Quand les appels sont très nombreux et que l'invité peut rester, ce qui n'est pas toujours le cas, compte tenu de son emploi du temps, eh bien nous le gardons. C'est la règle.
Avec
sur RMC. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels, effectivement. Je lis, tiens, ce message internet de Grégoire, des Bouches-du-Rhône. Je suis prof en fac de lettres. Je constate ce gouffre d'inculture dans lequel s'abîment la plupart de mes étudiants. Les étudiants ne savent plus réfléchir. Il est sévère, hein, Grégoire. J'en arrive à mettre des points en tenant compte non plus du résultat, mais juste de l'intention de l'étudiant. Lorsque j'essaie de noter honnêtement, la classe se hisse difficilement à 6 sur 20 de moyenne, avec en moyenne 3 fautes d'orthographe par ligne. Des phrases sans sujet, sans verbe, sans structure, c'est un désastre. Je suis très pessimiste pour l'avenir. Il faut vraiment y croire pour continuer ce métier.
Bien. Donc un collègue professeur d'université en français,
ouais,
je peux vous en citer en mathématiques, parce que la question m'intéresse,
oui, on va parler du
qui me disent la même chose.
Ouais.
Écoutez, on est devant une véritable catastrophe culturelle en cours. Culturelle donc,
trop,
économique.
Vous n'êtes pas trop alarmiste, non?
Écoutez, le monsieur qui est venu cet été s'agiter sur mon écran de télé pour me dire que les petits vieux étaient en train de mourir dans les maisons de retraite, au début je lui dis, tiens, celui-ci, il crie fort. Parce que je ne connaissais pas la question. Finalement, alors bien sûr, faut prouver ce que je dis, il faut aller voir, il faut vérifier. Mais là, vous avez beaucoup d'appels,
oui,
des profs de fac qui vous disent que leurs étudiants ne,
oui,
savent pas lire. Moi, je vous citerai Jean-Pierre de Mailly de l'université de Grenoble qui me disait, mais bon sang, faudrait faire une année d'université de plus, faudrait que le DEUC se fasse en 3 ans avant qu'on commence à faire vraiment des mathématiques. Il y a quelque chose qui ne va, oui, pas. Je pense qu'on n'aura plus d'écrivains, on n'aura plus de matheux, on n'aura plus, et comme en plus il n'y a pas de chercheurs, ça ne va pas.
Marc Lebrisse avec nous, il reste jusqu'à 9h15, 8h56.
Jean-Jacques Bourdin.
Marc Lebrisse est toujours avec nous, vous l'avez souhaité. Nous continuons. Marc Lebrisse, dans votre livre, vous êtes sévère avec Thélault, avec Mérieux, des théoriciens de l'éducation nationale. On crève de ces théoriciens? Est-ce qu'il y a trop de théoriciens dans l'éducation nationale française?
Je crois surtout, tout simplement, que ces théories-là sont complètement fausses et tout à fait infondé.
Philippe Mérieux, qui est directeur de l'UFM de Lyon.
Oui, je ne peux pas me permettre de,
oui,
dire qu'il ne dit que des bêtises, le cher homme. Il est très agréable de comme ça, mais les théories sur lesquelles sont fondées la pédagogie qui est en cours depuis 30 ans sont complètement fausses et installées sur rien. Il y a ce qu'ils appellent science de l'éducation, c'est un ensemble de dogmes qui se répètent entre eux depuis 30 ans, mais qui n'a aucun fondement scientifique.
Est-ce vrai que certains sont allés jusqu'à dire que les enfants pouvaient apprendre à lire en lisant des prospectus dans des boîtes aux lettres?
C'est Philippe Mérieux qui a dit ça.
Ah bon?
Il s'est excusé après en disant « je m'étais trompé ». Écoutez, oui. Monsieur Mérieux, on ne se trompe pas à ce point-là, parce que c'est une énormité. L'air de dire que les gamins de banlieue s'intéressant plus au mode d'emploi de moteurs de mobylette qu'à Racine.
Oui, il vaut mieux apprendre Baudelaire, Victor Hugo.
Voilà,
on
Racine
est
c'est bien,
hein,
même
Racine,
pour un petit rebeu, mes copains d'origine maghrébine, ils trouvent ça très bien aussi. Il y en a qui n'aiment pas ça, c'est pas une question de couleur, c'est une question d'affaire.
Vous dites aussi, Marc Lebris, certains sauvageons ne le seraient pas si on leur avait appris à dire bonjour en entrant en classe et à dire merci quand on leur offre un crayon.
Il faut jamais. Oui. Oui, je pense qu'il y a une responsabilité de l'éducation nationale. Je n'aime pas bien cette espèce de défaussement que nous avons sur les parents en disant « Ah, les parents sont démissionnaires ».
C'est la démission, oui.
Les parents sont démissionnaires. D'abord, les parents font ce qu'ils peuvent. Il y en a qui ne sont pas démissionnaires du tout. Il y en a qui sont un peu. Et qui, c'est des traditions familiales à caractère éducatif et sur lesquelles, moi, je n'ai rien à dire. Mais je dis simplement que si l'école avait fait son travail structurant, c'est-à-dire apprenant à lire aux enfants, en leur apprenant... Quand vous parliez de discipline tout à l'heure,
oui.
La discipline, c'est que BA font bas et que OI font ou toujours.
Oui.
Et que demain, tu le sauras, que tu t'appelles Georges ou Mohamed, ça m'est complètement égal.
Là, oui.
Et donc, si nous, on avait fait notre travail structurant, avec des gamins structurés à qui on a appris à dire bonjour en entrant et merci quand on donne quelque chose, je pense qu'il y aurait moins de BX brûlés.
Oui, Marc Lebris, Charlotte nous écrit du 71. Saône-et-Loire, je suis institutrice à la retraite depuis peu. J'entends avec satisfaction que les auditeurs demandent de la discipline. Mais pour qui la demandent-ils? Les parents d'élèves ont toujours été pour les punitions, pourvu que ce ne soit pas leurs enfants qui soient punis, mais les autres.
Bien sûr.
Oui.
Mais bien sûr. Bon. Si je peux éviter de fustiger votre bébé à vous, ça sera mieux pour tout le monde, surtout si c'est... Bon.
Oui.
Ce sont des problèmes qui arrivent tous les jours dans toutes les écoles depuis que l'école existe, et je suppose que les écoles romaines ou spartiates avaient ce même type de problème. Et bon, on l'a, évidemment. Ceci dit, on dit bonjour en entrant et on dit merci quand vous donne quelque chose.
Dans votre école.
Oui. Et...
Bruno.
Oui.
Vous êtes en Haute-Garonne.
Oui.
42 ans, logisticien.
Oui.
Question à notre invité.
Oui. La question que j'ai à lui poser, c'est comment je trouve pas normal qu'on soit obligé d'aller voir des orthophonistes qui sont hors du milieu scolaire pour apprendre à lire aux enfants, comme j'étais obligé de le faire pour mon fils. Et je vais être obligé de le faire pour le calcul.
Oui.
Voilà.
C'est un constat qui fait partie du constat que je fais. Il y a des secteurs entiers où ce sont les orthophonistes qui apprennent à lire aux enfants et non pas les instituteurs dont c'est le métier.
Oui.
À ce sujet, si vous voulez vraiment sauver vos gamins de l'illettrisme, il y a des méthodes de lecture globale, des méthodes de lecture syllabiques qui viennent de sortir, et savez-vous quoi, elles ont été écrites par des orthophonistes de Manosque, qui, lassés d'avoir les rangs de leur travail encombrés par des enfants qui ne savaient pas lire, de notre faute à nos instituteurs et non pas de leur faute d'enfants à eux.
Oui.
La question de la dyslexie est une question extrêmement marginale. Sauf que maintenant, il y a quasiment 2 gamins sur 10 qui vont voir des orthophonistes pour apprendre à lire. C'est bien la preuve que quelque chose ne va pas, et c'est vous qui avez raison de mettre le doigt là-dessus.
Ouais.
Merci Bruno.
Je vous en prie.
Bonne journée. Merci, au revoir. Le calcul. Qu'est-ce qui a changé aussi dans l'apprentissage du calcul? On fait toujours des soustractions, des multiplications, des divisions quand même.
À la dernière conférence pédagogique de mathématiques à laquelle j'ai assisté, ce qui est assez rare.
Oui.
La prof de mathématiques a essayé d'obtenir l'accord de la salle d'instituteurs sur la question que l'algorithme de la division, c'est-à-dire la pratique de la division complète, était déjà poussée en fin de CM2, et si on pouvait la pousser hors du cursus scolaire, ce serait une bonne chose. Et tout le monde était quasiment d'accord là-dessus. Quand je me suis levé pour dire « mais enfin, moi je ne suis pas d'accord, je pense qu'il y a un intérêt en soi à l'algorithme de la division », on m'a regardé évidemment comme si j'étais un dinosaure.
Eh oui. Bien, on va prendre Vincent. Vincent ?
Oui, bonjour.
Vous êtes dans les Hauts-de-Seine ?
Tout à fait.
Question à notre invité.
Je voulais qu'il me dise comment expliquer le taux d'illettrisme en 2002 qui était de 12%, alors que l'éducation nationale n'a jamais eu autant de personnel et de moyens. alors que comparativement en 1914, il était de 3% selon ce que j'ai pu lire.
Voilà. Manque d'effectifs d'enseignants, c'est ce qu'on entend sans cesse. Hein. On manque d'enseignants, on manque de moyens. C'est vrai ou pas?
L'année dernière, j'avais 30 élèves et 3 sections. Les CE2, des CM1 et des CM2. Vous dites ça à n'importe quel institut qui a fait le métier, il vous dit bon, chapeau, il fait demi-tour, il s'en va, pourvu qu'il soit pas dans cette classe-là l'année d'après. C'est difficile. Alors, l'année dernière, moi, je manquais d'effectifs. C'est-à-dire que pour ouvrir la 5e classe dont j'avais besoin, il aurait fallu que j'ai 3 ou 4 élèves de plus, ou bien qu'il y ait 3 ou 4 instituts de plus dans le département d'Ille-et-Vilaine. Maintenant, j'ai vu des chiffres à la télévision il y a 2 soirs, dans complément d'enquête, où le journaliste présentait, alors je ne sais pas d'où il tenait, mais il disait il y a un instituteur pour 12 élèves en France. Alors cette question-là commence à m'intéresser, je voudrais bien savoir où ils sont. En tout cas, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas dans ma classe l'année dernière.
Oui.
Voilà.
17 000 départs à la retraite sont prévus, 13 000 profs se présenteront au concours des écoles. Problème, là aussi.
Oui, il y a un problème. Allez, je vais vous dire une horreur. Je pense qu'un instituteur est utile quand il est devant ses élèves. De même qu'un maçon est utile quand il est devant le mur.
Oui.
Bien. Et je me demande, moi, où sont ces instituteurs-là qui n'étaient en tout cas pas dans ma classe l'année dernière.
Christian.
Oui.
Bonjour, vous êtes dans l'Hérault.
Oui, tout à fait.
Vous êtes chef d'orchestre, Christian.
Oui, chef d'orchestre de variété, oui.
De variété. Vous avez une question à poser à notre invité Marc Lebris.
Mais oui, à savoir... il a parlé de programmes à un moment donné. Est-ce qu'il n'y a pas une question d'argent derrière tous ces programmes qui changent chaque année? À savoir...
À savoir
1515, toujours 1515. Pourquoi chaque année les programmes d'histoire et géo changent, etc. On a vraiment l'impression qu'il y a énormément de personnes qui sont derrière tout ça et qui font des programmes pour faire du fric. Point, c'est tout. Et le fric passe à ce moment-là avant l'éducation de nos enfants. De toute façon, je veux dire à votre invité, chapeau de foutre un coup de pied là-dedans. Hein.
J'appelle ça un coup de pied de la fourmilière.
Allez-y, Marc Lebris.
Bravo, monsieur, continuez. Oui. J'étais moi-même à une époque où on était en train de mettre les parents d'élèves.
Oui.
Dans les écoles, je faisais partie d'une association qui était contre les parents à l'école. Au nom de quoi, nous, parents, nous allons au milieu et donner des leçons à des gens qui savent faire leur métier. Je ne crois pas ça. Je ne l'accepterai pas dans mon métier. Je ne vois pas pourquoi je devrais le faire.
Je veux dire, je suis contre pour la présence des parents dans la salle d'opération.
Vous êtes contre.
Oui, le chirurgien, c'est quelque chose de très précis. Et moi, mon métier aussi précis et important.
Oui.
La question, c'était sur le changement perpétuel des programmes.
Oui, le changement perpétuel des programmes. Marc Lebris, oui, on a compris.
Il ne parle pas vraiment du fonctionnement général de l'éducation nationale, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des nouveaux programmes, il y a des nouveaux manuels. Et qui est-ce qui écrit les nouveaux manuels? Nos théoriciens dont je parlais tout à l'heure. Et donc, on est devant une situation de blocage complet. Il y a 30 ans qu'il n'y a pas eu une seule méthode syllabique publiée, et là, ça y est, il y en a une chez Belin, Léo Léa, celle qui a été faite par mes fameuses orthophonistes.
De Manosque, bravo pour... Bravo, merci Christian, bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Christine.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans la Drôme, vous aussi.
Oui.
Question de notre invité, Christine.
Moi, je voulais lui demander surtout comment nous, parents, enfin moi, j'ai mes enfants sont grands maintenant, mais comment est-ce qu'on peut l'aider dans son combat? Parce que j'ai été très touchée par tout ce qu'il dit. Je trouve ça absolument formidable et je pousse un soupir de soulagement de voir qu'enfin un instituteur prend la parole et dit quelque chose. On a toujours dit ici dans notre famille qu'on ne valorisait pas les instituteurs et que c'était eux qui faisaient des enfants, des adolescents que nous avons après ou les adultes futurs. Et si le travail n'est pas fait à la base, eh bien il n'y a rien du tout après. Moi, mes enfants, j'ai été obligée de suppléer les instituteurs qui n'ont pas appris à lire à mes enfants, puisque c'est moi qui suis allée rechercher la méthode Boucher pour leur apprendre à syllaber et leur apprendre à lire, à écrire. Et j'ai encore, pour l'aîné, les félicitations de tout le monde en disant, mon Dieu, mais votre fils ne fait pas de faute d'orthographe.
Ouais, ça me rappelle la méthode Boucher, moi c'est comme ça que j'ai appris à lire.
Oui, mais moi j'étais...
Je me souviens, mais Christine, j'ai votre âge. Hein.
Oui. Mais moi, mes enfants, le problème, c'est que sur les 4 enfants, donc j'en ai encore un qui est scolarisé, qui est en 5e,
ouais.
Et je me bats, alors là, c'est en mathématiques, parce que je trouve que la méthode appliquée n'est pas logique, et je trouve qu'on ne simplifie pas les choses pour les enfants. On les complique à plaisir. On les perd dans des tas de trucs. Les choses doivent être simples si on veut qu'ils les comprennent, qu'ils les apprennent, et après que ça reste dans leur tête.
Marc Lebris.
Madame, d'abord, merci de votre salut qui me va droit au cœur, parce que je suis quelquefois un peu fustigé par ma hiérarchie et j'ai besoin d'être soutenu. Vous demandez que faire. Madame, je crois que vous l'avez fait. Vous me dites méthode Bauchet, évidemment. Vous êtes allé chercher une méthode Bauchet à ce sujet. La méthode Bauchet, qui est donc la méthode la plus syllabique considérée comme par la hiérarchie de l'éducation nationale, les théoriciens, par ce qu'il ne faut vraiment pas faire. Ils en vendent, il l'a dit l'autre jour, 100 000 par an en parascolaire, c'est-à-dire dans les rayons de supermarché où les parents catastrophés comme madame vont les chercher pour soutenir. C'est-à-dire que, en fait, en ce moment, il y a une grande partie du travail scolaire qui est faite par les parents qui se rappellent, eux, des ambitions qu'avait l'école de la République, en général, qu'ils ont subies, eux, et qui voudraient bien arriver à la même chose.
Voilà, mais alors, la question, est-ce que nous, parents, on a un moyen pour vous aider ?
De m'aider, moi ?
D'aider
la cause que je défends.
Voilà.
Alors, nous essayons de regrouper des enseignants qui pensent comme, en gros, ce que je viens de vous dire, que ce soit pour les mathématiques ou le français, et nous nous regroupons sur un site internet qui s'appelle sauve.net, qui regroupe des enseignants dans une association qui s'appelle Sauver les Lettres, et qui construit ce combat que nous menons depuis des années et des années.
Merci Christine, merci Marc Lebris, et vos enfants ne sauront, au revoir Christine, ne sauront pas lire ni compter. Marc Lebris, la faillite obstinée de l'école française. Le livre sort aujourd'hui, il est édité par Stock. Merci à vous, vous êtes sur RMC, pour savoir et comprendre, 9h18, vous continuez à appeler sur toute l'actualité, et il y a des sujets évidemment, nous allons parler du Rwanda, nous allons parler de l'Irak, nous allons parler de la victoire de Monaco face au Real Madrid. Vous voulez intervenir, vous voulez nous raconter ce que vous avez vécu, n'hésitez pas à le faire. Vous êtes libre, vous savez, d'intervenir et de dire ce que vous avez sur le cœur. 3216 rmcinfo.fr, à tout de suite.
Bonjour.
Vous êtes prof de français latin au collège.
Oui, exactement. J'étais enchantée par tout ce que a pu dire Marc Lebris tout à l'heure, qui a parlé d'or. C'était extraordinaire tout ce qu'il a pu dire. Tout ce à quoi nous sommes confrontés, nous, dans notre travail.
Alors, vous êtes en Seine-Saint-Denis, Cécile. Vous êtes convaincue par les bienfaits de la méthode syllabique.
Oui, moi, je voulais apporter une illustration de ce qu'a pu dire Marc Lebris. Moi, tous les ans, je fais une sorte de pointage d'enquête auprès de mes élèves. Je peux dire qu'il n'y a que deux élèves, en gros, dans chaque classe, et même, quelquefois, deux élèves parmi tous mes élèves qui savent vraiment lire, qui lisent des façons fluides et qui lisent pour le plaisir. Alors, le problème, c'est que les autres croient savoir lire, si vous voulez. Les parents ne se rendent pas vraiment compte. On leur a dit, mais non, c'est pas la méthode globale, c'est la méthode semi-globale, donc rassurez-vous, tout va bien. Et en réalité, ils s'en sortent plus ou moins, mais ils butent sur les mots, ils se reprennent, parce qu'on leur a appris d'apprendre en faisant un pari sur chaque mot, sans déchiffrer syllabe par syllabe. Donc, c'est une lecture extrêmement fatigante, extrêmement stressante, puisqu'ils doivent, avant chaque mot, faire une petite pause, faire un pari, deviner, anticiper, c'est-à-dire ne jamais faire appel à leur observation, mais alors uniquement à leur déduction, ce qui n'est pas ça, ce n'est pas ça la lecture. Donc ils sont stressés, ils lisent mal, ils font une faute dans un cas sur deux, et c'est lamentable. Donc, du coup, ils ne lisent jamais pour le plaisir, et ils ne comprennent pas les consignes, parce qu'ils se trompent sans s'en rendre compte, quelquefois, enfin, c'est dramatique. Mon enquête prouve que tous les ans, à peu près les seuls élèves qui lisent de façon aisée et fluide, quand je demande « Comment avez-vous appris à lire ?», et bien tous me disent « Ah, mais c'est ma maman, elle avait tellement peur de la méthode globale qu'elle m'a appris à lire avant le CP avec la méthode Bauchet, ou bien avant le CP avec la méthode Léo et Léa, ou bien avant le CP avec sa méthode d'un vieux bouquin qu'elle avait retrouvé dans sa cave. » Voilà. Ce sont les seuls qui lisent correctement, ceux qui ont pratiqué la méthode syllabique. J'attends qu'un jour les autorités en prennent conscience, parce que tout le monde en parle.
Pourquoi ne peut-on pas admettre dans ce pays que la méthode syllabique est la meilleure méthode? Mais je ne comprends pas pourquoi.
Parce que Marc Lebris n'est pas le premier à le dire.
Mais je sais.
Liliane Lourza l'a dit, Ghislaine Bechtenbadour l'a dit, l'orthophoniste Colette Ouzilou l'a dit il y a deux ans, Gaspin et Bartoli l'ont dit il y a en 83, ils ont fait un livre magistral là-dessus,
Je vous promets, dès que nous recevons François Fillon, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, je vous promets, là je demande à tous les auditeurs, on lui posera la question, je vous promets. Je lis quelques mails avec vous, Cécile, puis nous prendrons Anne-Marie ensemble.
Oui, je reste ici,
restez Cécile avec nous. Nous avons Salah qui nous écrit du Rhône et qui nous dit « Bonjour à toute l'équipe ». Je voulais simplement dire que je suis étudiant à l'UFM de Lyon, et lorsqu'on entend tous les problèmes qui existent et persistent, cela ne donne pas envie de continuer, si c'est pour se prendre un mur, nous dit Salah. Je voudrais pas décourager, moi, les futurs enseignants, hein. Cécile.
Pardon ?
Je ne voudrais pas décourager les futurs enseignants.
Ne les décourageons pas, ils peuvent résister. Hein. Moi, je sais que je suis enseignante, je résiste aux consignes de mes inspecteurs. Okay. Je fais de la grammaire alors que théoriquement, je n'ai plus le droit d'en faire. Ou on me dit, je continue de faire des dictées, de faire de l'orthographe. Je ne suis pas découragée malgré les consignes. Ouais. Non, ne décourageons pas. Ma fille est future enseignante et elle sait qu'elle pourra quand même résister. Et elle espère aussi que les consignes vont redevenir des consignes de bon sens.
Oui. Nous avons aussi Christian qui est avec nous. Christian qui est chargé, enfin il est avec nous par message internet, il est orthophoniste chargé de l'enseignement à l'école d'orthophonie de Nice. Il nous écrit, le recours aux orthophonistes est effectivement exagéré en matière de lecture, il faut donner la même importance au code et à la recherche du sens, c'est une évidence. Lire c'est comprendre, et je connais nombre d'enfants qui déchiffrent sans comprendre.
Alors ça c'est la grande question, c'est ce que nous opposent les tenants de la méthode globale. Et bien moi je dis le contraire, je pense que lire c'est d'abord donner du son. Le sens ne vient qu'après. Déjà, généralement, les enfants qui lisent de façon syllabique, en effet, au début, se contentent de donner du son. Exemple, par exemple, ils vont dire « la, lu, ne ». Pendant les premières semaines, ils ne vont pas bien comprendre que « la, lu, ne », c'est « la lune ». Et un jour, ça va faire « tic », « ah, la lune ». Et puis voilà, le sens est arrivé tout de suite. Et donc, le sens, il vient après quand l'enfant acquiert du vocabulaire. Mais lire, c'est d'avoir donné du son, la preuve. C'est que moi, si je lis un bouquin d'économie tordue auquel je n'y comprends rien, eh bien, je saurais le lire, je n'y comprendrai rien, et pourtant je saurais le lire. Qu'est-ce qui me manque pour comprendre ce bouquin d'économie ardue ? Ce n'est pas une lecture mal acquise, c'est simplement des connaissances en économie, tout simplement, peut-être de l'abstraction, ce sont des connaissances annexes. Lire, c'est d'abord donner du son.
Bien. On va prendre Anne-Marie avec vous, dans un instant, parce qu'on a une petite pause publicitaire, pour une minute, hein, simplement, Cécile. Je voudrais simplement encore lire ce message d'Hervé, du Rhône, à lire journal d'une institutrice clandestine chez Ramsay, ou comment une institutrice se bat contre les méthodes imposées dans les UFM par l'éducation nationale. Et nous avons aussi Magali, c'est vrai, il est grand temps de réformer l'éducation nationale, car les programmes scolaires ne sont plus vraiment adaptés. Et puis, voilà. Et puis, vous êtes très nombreux à demander le titre et l'éditeur du livre de Marc Le Bris. Eh bien, n'hésitez pas, on vous transmettra toutes ces informations par Internet. Cécile, restez avec nous, Anne-Marie est là. Nous reviendrons sur le match de Monaco, d'autres sujets, ce matin sur RMC, 9h41, à tout de suite. Merci d'être avec nous. Nous avons toujours Cécile en ligne. Cécile, vous êtes toujours là.
Oui.
Anne-Marie est là aussi. Bonjour Anne-Marie.
Oui, bonjour.
Vous êtes institutrice ou professeur des écoles
en CP.
En CP. La méthode syllabique.
La méthode syllabique pour moi n'est pas à faire en priorité, je dirais, ne faire que ça. Moi je travaille beaucoup à partir des albums pour ma classe. Et le B.A.B.A., je ne l'appréhende pas dès le début. Je travaille donc en semi-global, je trouve. Je travaille beaucoup la phonologie, par contre, en parallèle. Et la découverte de l'image aide beaucoup à la compréhension du texte, si on vérifie ensuite.
Cécile, Anne-Marie n'est pas tout à fait sur le même chemin que vous.
Oui, parce que, si vous voulez, le problème, c'est que l'enfant risque de vous montrer l'image d'auto, et puis avec le mot auto dessus, et il va lire voiture, et puis vous serez peut-être contente, parce que vous direz, ah, mais il a compris. Il n'empêche qu'il faut d'abord lire les mots. Parce que, si vous voulez, le problème, nous, ce que nous reprochons à la méthode semi-globale, ou mixte, si vous voulez, c'est que l'enfant acquiert de mauvaises habitudes au départ, et après, quand enfin... puisque c'est ainsi, c'est pourquoi elle s'appelle semi-globale, c'est qu'au bout de quelques semaines de vision des images avec des mots en dessous, on aborde la méthode syllabique, puisque c'est ce que disent les maîtres qui font la méthode mixte, ils disent qu'enfin, ils utilisent la méthode syllabique après coup. Les enfants ont acquis une mauvaise habitude, ils pensent deviner le mot dans sa globalité, donc, et ils ont un mal fou à revenir à la syllabe, à l'unité. Alors pourquoi ne pas faire... Pourquoi pas partir du simple et aller vers le compliqué ? C'est-à-dire on part de l'unité qu'on assemble, mais élément par élément, pour arriver, et l'image viendra après. L'enfant n'a pas besoin d'avoir l'image d'un lapin pour lire lapin, parce que sinon après il va lire lièvre. Lièvre, lapin, il ne saura pas. Ce sera le même dessin en gros.
Mais non, je vous assure que ça ne se passe pas du tout comme ça. Dans ma classe, et pourtant c'est pas un milieu extrêmement favorisé, j'ai des enfants qui sont... où on est disponible pour la lecture, où on ne l'est pas. Et ce n'est pas la méthode syllabique qui pourra faire avancer les choses, ni la méthode globale. Un enfant qui ne peut pas lire parce qu'il n'est pas disponible, qui n'est pas mûr, que ce soit la méthode syllabique ou la méthode globale, n'importe quelle méthode, il ne sera pas prêt pour la lecture. Or, d'un autre côté, les enfants qui sont prêts pour lire, je trouve que c'est beaucoup plus valorisant pour eux de leur donner l'impression d'avancer plus vite de s'intéresser.
Oui. Mais Anne-Marie, moi j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi le nombre d'enfants ne sachant pas lire ou mal lire en sixième augmente?
Eh bien écoutez, parce qu'on n'a pas de structure suffisante pour accueillir des enfants en difficulté.
Oui. Mais pourquoi sont-ils en difficulté?
Écoutez, moi j'ai dans ma classe des enfants qui sont en très grande difficulté. Ils ne savent pas, pour eux, un B n'est pas un B. Un B, c'est une lettre comme une autre. Un jour, il dira que c'est un B, le lendemain, il le prendra pour un M. Ils ne mémorisent pas.
Mais peut-être que ça passe dans leur tête. J'ai envie de dire, peut-être parce que précisément, vous n'avez... Enfin, c'est pas du tout un reproche personnel que je fais. Peut-être parce que l'enseignement n'a pas été d'abord porté sur justement ce lettre B, commencer par l'unité. S'il a vu le B mélangé à un mot entier, c'est sûr que pour lui, vous...
Mais si le travail en maternelle, on leur apprend le nom des lettres, mais ils ne les mémorisent pas, ces enfants.
Oui,
c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Et pour eux, ça n'a aucun sens. Une lettre, c'est un dessin et ça n'a pas de sens.
Alors, comment expliquez-vous que dans la génération de ne serait-ce que du début du siècle, où les enfants avaient des parents, par exemple, analphabètes, ou des enfants de paysans, ou des enfants dont les parents ne savaient pas lire, arrivaient tous à lire, tous, c'est ce qu'a dit M. Lepris dans sa classe de Bretagne, tous les enfants savent lire à Pâques. Moi, j'étais surveillante, quand j'étais débutante dans un CP, je faisais lire le soir les enfants, tous savaient lire à Pâques. Plus ou moins vite, si vous voulez, mais tout le monde savait lire à Pâques.
Et alors, il y avait le certificat d'études avant qui faisait barrage en CM2 pour l'entrée en 6e. Il y avait quand même beaucoup moins d'enfants qui rentraient en 6e.
Ils savaient lire en 6e. Ils savaient, ceux qu'on laissait de côté au certificat d'études savaient lire. Ceux qui étaient passés par l'école savaient lire.
Oh, pas tous. Non.
Mais si.
Bon. Écoutez, chacun reste sur son point de vue. Nous avons Isidora qui est enseignante elle-même et qui dit « Nous faisons ce que nous pouvons. J'ai l'impression que tout le monde remet la faute sur les enseignants, mais il faudrait d'abord critiquer la manière dont nous sommes formés », nous dit Isidora.
Oui.
Vous êtes d'accord, Anne-Marie,
oui,
avec
oui,
ça?
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Vous êtes d'accord toutes les deux, là, alors.
Oui, on est très réunis à ce niveau-là.
Oui, Rachel Boutonnet dit dans son livre « L'institutrice clandestine » qu'elle n'a eu à peu près que quelques heures de préparation à l'enseignement de la lecture, justement, à l'IUFM, quelques heures ou une journée, qui est dramatique, quand on voit l'importance que cela peut entraîner dans tout le reste de la scolarité.
Pour la suite. Merci Cécile, merci Anne-Marie.
Merci.
Merci.
Bonne journée.
À toutes les deux. Au revoir. Chacun reste sur ses positions, mais le débat continue. Hein. Parlons-en, on en parle entre nous, on en parle après, autour de la machine à café, au bureau, ou dans sa voiture, ou quand on rencontre son client, ou quand, j'ai entendu, tiens, qu'est-ce que tu en penses, et tout. C'est ça le débat. C'est ça le débat public. Christine,
oui.
Vous êtes cadre ressources humaines,
oui,
hein,
c'est ça.
Dans l'Essonne.
Oui.
Et vous travaillez pour aussi bénévolement, bien sûr,
oui,
pour une fédération de parents d'élèves.
Tout à fait. Depuis que mes enfants sont en maternelle, j'en ai un qui est en 6e aujourd'hui et j'en ai deux qui sont en première S au lycée.
Bien. Vous dites on est en train de se battre contre des heures de cours supprimées ici et là.
Ah oui, c'est aussi bien, maintenant je suis au collège et au lycée, c'est au collège, c'est au lycée, donc l'année dernière au collège, cette année on avait réussi à avoir, des effectifs acceptables, à avoir des enfants 25 par classe, et le résultat s'est passé à temps, on a eu des résultats au brevet de plus de 15%, ce qui est énorme, qui était au-delà, de la moyenne de l'Essonne, et donc on a fait remonter, et aujourd'hui on nous supprime des heures, une vingtaine d'heures, et encore, on nous menaçait si on ne créait pas ce qu'ils appellent les classes de réinsertion, de nous supprimer 28 heures encore supplémentaires. C'est-à-dire qu'au lycée, il se passe la même chose, suppression d'heures, alors là je n'ai plus dans mes papiers parce que j'en ai un peu partout, on nous supprime, je crois que c'est l'heure de 21h, donc le principal est obligé de faire des choix dans ces suppressions d'heures. Qu'est-ce qu'on supprime? Le latin, le grec. Alors on dit qu'il y a une perte de culture, que les enfants ne s'intéressent plus, mais même ceux qui s'intéressent, les miens font du latin, on continue de faire du latin. Leur petit frère qui est en 6e, quand il va arriver au lycée, la rentrée prochaine, il n'y a plus de grec, il n'y a plus de latin. Et c'est vraiment... donc je sais pas où on va, mais donc on supprime automatiquement, on surcharge des classes, on supprime des postes de professeurs. Donc là où on sent qu'il y a une amélioration, l'année suivante, ça chute, quoi.
Merci Christine.
Et puis juste par rapport à votre invité... Oui. Vous l'avez tout à l'heure, j'ai vraiment écouté avec intérêt. Oui. Il a dit, je suis complètement d'accord avec lui. Et pour la petite anecdote, pour le petit qui est en sixième, il avait une leçon. Alors, je ne vous parle pas des profs qui manquent, qu'on n'arrive pas à remplacer. Alors là, il y en aurait pour une heure de discussion. On est en train de refaire systématiquement. Ils ont 4 ans d'écart. Hein. Ils restructurent les manières d'apprendre l'imparfait qui est très simple. Moi-même, alors j'ai dit, mais attends, là je comprends pas ce que c'est. Il demande à son grand frère, 4 ans auparavant, c'est des termes, on change tous les ans, on s'attaque, on fait des réformes de mots, et on change des mots, mais sur le fond, on ne s'y attaque pas.
Merci Christine.
Voilà.
Bonne journée.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir Christine. Christine qui était très précise. Hein. Et qui est secrétaire FCPE, hein, je le précise, parent d'élève FCPE. Bernard veut parler des DS. On va en parler, mais je voudrais quand même que nous revenions sur le formidable match de Monaco.